Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi. L'heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Au lendemain de l'audition du chef de file de la France Insoumise, l'ancienne conseillère de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, est entendue depuis ce matin par les policiers anticorruption. La justice soupçonne l'existence de surfacturation lors de la campagne présidentielle de 2017.
Dans votre édition également, existe-t-il un cartel du jambon en France?
Oui, selon nos confrères du journal Le Monde, 14 entreprises seraient dans le viseur des enquêteurs de l'autorité de la concurrence qui soupçonne une entente donc sur le prix du jambon, aussi bien à la vente qu'à l'achat.
Comment reprendre langue avec les territoires?
Le Premier ministre Édouard Philippe a trouvé la solution et déjeune aujourd'hui avec les présidents de région. Et les sujets sur la table ne devraient pas manquer de la suppression de la taxe d'habitation aux 80 km à l'heure sur le réseau secondaire, en passant par le coût des aides sociales pour les départements ou bien encore les coupes dans les emplois aidés.
Et dans votre édition, on partira également à l'étranger avec une première aux États-Unis.
La justice fédérale a lancé hier et pour la première fois donc une enquête sur les abus sexuels commis par le clergé catholique.
Malgré l'impréparation et les violences, l'Afghanistan votera demain pour élire ses députés.
Oui, mais à quel prix? Hier, les talibans ont encore revendiqué une nouvelle attaque dans le sud du pays. Enfin, invité aujourd'hui de notre rendez-vous sur l'Europe, Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Les impasses de la collaboration et les promesses de la coopération, plaidoyer dans une vingtaine de minutes avec notre invité Éloi Laurent, plaidoyer pour une réforme, un changement de paradigme économique complet. Ce sera donc dans la deuxième partie de la grande table.
Merci, à tout à l'heure. La France insoumise, décidément, est plus que jamais sous les feux de l'actualité. Après Jean-Luc Mélenchon, hier ce matin, c'était au tour de Sophia Chikirou, sa conseillère en communication, d'être entendue à Nanterre aujourd'hui par les policiers en charge de l'enquête sur les comptes de campagne présidentielle du parti. Il faut dire que Sophia Chikirou, dirigeante de la société de conseil Mediascope, est elle-même au cœur de cette enquête, soupçonnée d'avoir surfacturé ses prestations auprès du candidat Mélenchon, dont elle était la directrice de communication lors de la campagne de 2017. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Et concernant ses prestations donc de la société Mediascope, eh bien la France insoumise, de son côté, dément toute surfacturation.
Des accusations calomnieuses, selon Jean-Luc Mélenchon, qui répond dans un communiqué en fin de matinée. Le chef de file de la France Insoumise s'insurge contre ce qu'il qualifie de service après-vente de la diffamation politique. L'ancien candidat à l'élection présidentielle dénonce l'enquête menée par la cellule investigation de Radio France, qualifiée de radio d'État. Chaque point sera démenti, toutes les poursuites judiciaires nécessaires seront engagées, ajoute Jean-Luc Mélenchon. Et ce matin, c'est le député du Nord, Adrien Quatennens, qui a assuré la riposte médiatique sur le plateau de France Info, notamment à propos des factures de 200 euros pour mettre en ligne chacun des 19 discours de l'ancien candidat.
D'abord, rappeler une chose, notre campagne électorale, ses comptes ont été validés. Maintenant, venons sur les prestations de communication. Vous croyez que quand on est face à un meeting, on met la vidéo sans regarder les extraits, qu'il n'y a pas de montage, que ça prend pas du temps, la mise en ligne? Vous pensez vraiment que c'est 200 euros de facturés pour les deux clics comme vous, si vous mettriez une vidéo sur Facebook? C'est absolument ridicule.
Adrien Quatennens poursuit sa contre-offensive en dénonçant un deux poids deux mesures à propos des comptes de campagne d'Emmanuel Macron.
Comparatif, l'agence Jésus et Gabriel qui travaille pour Emmanuel Macron facture la prestation pour un clip vidéo et sa réalisation plus de 150 000 euros. Mediascope pour 20 clips, c'est 108 400 euros. Nous ne demandons pas à être reçus de la justice, nous demandons à être traités comme tout le monde. Et visiblement, que l'on soit un ami de Jean-Luc Mélenchon ou d'Emmanuel Macron, nous ne sommes pas traités de la même manière.
Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens se posent une fois de plus en victime d'un système médiatique qui serait aux ordres du pouvoir. Jean-Luc Mélenchon défend Sophia Chikirou et sa société Mediascope. Rappelons que Sophia Chikirou doit diriger la campagne de la France Insoumise pour les élections européennes.
Merci Sophie Delpont. C'était il y a un mois au Congrès des régions. Édouard Philippe avait promis d'inviter les présidents de régions à déjeuner à Matignon, tout en rappelant son souhait de donner de nouvelles libertés aux élus en matière de fonction publique territoriale. Alors s'agissant du déjeuner, c'est aujourd'hui le grand jour. Quant au fait de savoir si le Premier ministre va réussir à se réconcilier avec les territoires après de longs mois de querelles, il faudra probablement encore attendre la fin du repas. Antoine Geoffin, bonjour.
Bonjour Thomas.
C'est peu de dire que depuis le début du quinquennat, les sujets de mécontentement se sont accumulés du côté des élus locaux.
Eh oui, point d'orgue de la grogne de ces élus. Il y a une semaine avec le hashtag Balance ton maire, manière pour la majorité de dire quels sont les élus qui ont augmenté leur taxe d'habitation. manifestations cette année. Dénonciation assez honteuse, disent les uns. Transparence, répondent les autres. Il y a un mois, vous l'avez dit, Thomas, trois grandes associations d'élus lançaient l'appel de Marseille pour un État respectueux des collectivités et une relance de la décentralisation. Personne ne veut revenir sur la décentralisation et surtout pas le gouvernement, avait alors assuré Édouard Philippe, avant d'ajouter qu'on ne peut pas réparer le pays sans travailler en confiance avec les collectivités. La confiance et l'écoute, c'est justement ce que demandent les territoires depuis le début du quinquennat. Selon eux, si leurs relations avec l'État sont détestables, c'est parce qu'ils ne les consultent pas. Consultation sur des mesures impopulaires, comme la nouvelle limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, mais aussi les coupes dans les emplois aidés ou encore la suppression de la taxe d'habitation sans que la compensation ne soit clairement définie. Aujourd'hui, avec les territoires, Emmanuel Macron veut appuyer sur la touche reset. C'est le sens de ce déjeuner à Matignon ce midi, réinitialiser les relations et apaiser les tensions. Mardi, le président a déjà fait un premier pas en plaçant Jacqueline Gourault à la tête d'un grand ministère des territoires. Un interlocuteur désigné à Paris, c'est justement ce que demandaient les élus locaux. Mais Hervé Morin, président de Région de France, prévient, si ce n'est que de la com présidentielle, notre réaction sera très brutale. Le patron de la Normandie veut désormais une démocratie locale affirmée et un pacte girondin, ce qu'avait promis justement Emmanuel Macron 2 mois après son élection.
Merci Antoine Geoffin. Après les bandes organisées de la finance hier, les cartels de l'agroalimentaire aujourd'hui. Selon les informations du journal Le Monde, ce matin, 14 industriels de la charcuterie se seraient entendus sur les prix autour du jambon. Aussi bien à l'achat dans leurs approvisionnements, c'est-à-dire auprès des abatteurs de porc, qu'à la vente, comprenez, auprès des distributeurs. Les faits reprochés auraient lieu entre janvier 2011 et avril 2013 et ils concerneraient particulièrement les produits de supermarchés distribués en grande surface. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors il s'agirait là d'une première dans l'histoire de la concurrence avec une entente dans les deux sens de la chaîne, en somme, en avant et en aval. En revanche, ce scandale n'est pas une première dans la mesure où il en rappelle tant d'autres, qu'il s'agisse du cartel des endives, de la farine, des yaourts, des poulets. Alors que se passe-t-il ?
Effectivement, l'autorité de la concurrence a beaucoup recadré ces dernières années les industriels de l'agroalimentaire à cause de leurs pratiques anticoncurrentielles. Et comme souvent, ce qui a motivé l'ouverture de cette enquête sur la charcuterie, c'est ce qu'on appelle une demande de clémence. En gros, c'est l'un des acteurs de la fraude qui se dénonce, un repenti en quelque sorte, qui espère, en fournissant des preuves et en reconnaissant sa culpabilité, alléger la sentence pour le cartel du yaourt en 2015. C'était Yoplait qui avait devancé les enquêteurs. Ces industriels du porc s'entendaient donc sur les prix et se coordonnaient sur les appels d'offres. Et curieusement, la révélation de ces pratiques n'entraîne pas de haut cri de la part des agriculteurs, pourtant souvent lésés dans l'histoire. Mais ces derniers estiment que ces cartels de l'agroalimentaire reflètent surtout une façon illégale, certes, de contourner la toute-puissance des distributeurs français, des mastodontes qui en toute légalité regroupent, eux, leurs centrales d'achat dans des alliances face auxquelles peu d'industriels peuvent vraiment peser, y compris des géants comme Nestlé. Auchan, Système U et Casino, par exemple, ont allié leur puissance d'achat. Ils représentent désormais à eux trois un tiers des parts de marché sur le libre service des produits frais dans l'Hexagone. Idem pour Carrefour et Cora. Cette concentration de la grande distribution face à des industriels éparpillés incite ces derniers à imaginer des stratégies qui donc parfois sortent de la légalité et qui sont toujours en revanche au détriment du consommateur. Mais les distributeurs sont eux aussi dans le viseur de l'autorité de la concurrence. Elle enquête depuis quelques mois sur leur rapprochement à l'achat avec des distributeurs cette fois-ci internationaux. Des rapprochements qui pourraient, selon l'autorité, nuire aux fournisseurs et aux consommateurs.
Merci Anne-Laure Chouin. Organisées avec 3 ans de retard, les élections législatives prévues demain en Afghanistan sont les troisièmes depuis l'intervention américaine qui a chassé les talibans du pouvoir, c'était en 2001. Mais parce qu'avec 20 000 victimes, l'année 2018 est en passe de devenir la plus meurtrière depuis le début de la guerre, la question se pose de savoir qui détient aujourd'hui le vrai pouvoir, le gouvernement ou les talibans. Voilà des semaines que la campagne électorale est ensanglantée par des attentats. Pas moins de 10 candidats au scrutin ont été tués. Et puis surtout, même si de nombreux Afghans portés par des espoirs de changement se disent déterminés à braver les risques d'attentats pour aller demain glisser leur bulletin dans l'urne coûte que coûte, Des millions d'électeurs ont d'ores et déjà renoncé à s'inscrire. Des milliers de bureaux de vote resteront fermés demain, les organisateurs ayant encore du mal à trouver des assesseurs en dépit d'un énorme dispositif de sécurité. Autant dire que la participation au scrutin reste à ce stade très incertaine. Enfin, signe là encore de ce que la situation n'est pas seulement chaotique mais aussi complexe. Hier, un général, Abdul Razik, a succombé à une énième attaque des talibans. C'est lui qui garantissait la sécurité à Kandahar, ce qui veut dire que sa mort laisse un dangereux vide sécuritaire dans le sud du pays. Or, si cet homme était considéré comme un véritable rempart contre l'insurrection talibane, il était également décrit par l'organisation Human Rights Watch comme un tortionnaire. C'est une correspondance à Kaboul signée Sonia Ghazali.
L'Afghanistan a perdu un architecte de la stabilité. Les mots sont d'un ancien conseiller national à la sécurité. Le général Abdul Razik était largement respecté dans les plus hauts rangs de l'État pour son rôle dans le maintien de la sécurité dans la province de Kandahar, dans le sud du pays où les talibans sont particulièrement influents. L'homme de poigne, controversé pour ses méthodes violentes employées contre ses ennemis, avait réussi à contenir les insurgés. Il dénonçait également ouvertement les liens entre l'armée pakistanaise et les talibans. À 39 ans, le jeune général avait survécu à de multiples attaques, réchappant à des dizaines d'attentats, plus de 30 selon certains médias locaux. Les talibans avaient plusieurs fois tenté de le tuer, explosifs dissimulés dans son canapé, attaques suicides. C'est finalement un garde du corps du gouverneur provincial de Kandahar qui y parviendra, ouvrant le feu à l'issue d'une réunion. Le général Razik et plusieurs personnalités afghanes et américaines de haut rang y assistaient dans les bureaux du gouverneur de la province de Kandahar. Le chef provincial des services de renseignement a également été tué. Le chef de la mission de l'OTAN en Afghanistan, également présent, n'a pas été blessé, mais un militaire, un civil ainsi qu'un contractant américain ont été touchés. Cette attaque ajoute au climat d'insécurité qui règne à quelques heures du scrutin, mettant encore plus de pression sur les électeurs. À Kandahar, il n'y aura pas de vote demain. Les autorités ont décidé de repousser le scrutin d'une semaine.
Un sommet sur la Syrie réunira le 27 octobre prochain la France, l'Allemagne et la Russie à Istanbul à l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'Élysée, qui précise toutefois que le président Emmanuel Macron ne se rendra pas sur place en cas d'offensive militaire à Idlib. Donald Trump a pour la première fois admis hier que le journaliste saoudien disparu Jamal Khashoggi était très probablement mort, menaçant même Riyad de très graves conséquences si sa responsabilité était confirmée. Une déclaration qui semble-t-il marque un très net changement de ton de la part du président américain, lequel avait opté ces derniers jours pour une posture, disons, moins tranchée, notamment lorsqu'il s'agissait de mettre en avant les énormes intérêts stratégiques liant son pays au royaume sunnite. Alors Washington a tout de même accordé un délai supplémentaire à la monarchie saoudienne pour mener à bien ses investigations. Des investigations qui, en croire la presse, cette fois-ci américaine et turque, pourraient tout simplement se borner à trouver un bouc émissaire idéal dans l'entourage du prince héritier. Donald Trump, toujours lui, a de nouveau menacé hier de fermer la frontière avec le Mexique pour empêcher des milliers de migrants d'Amérique centrale de gagner les États-Unis. Le chef de la Maison-Blanche qui relance ainsi l'un de ses thèmes de campagne favori à 3 semaines des élections cruciales de mi-mandat, à l'issue desquelles les républicains pourraient perdre leur majorité au Sénat et ou à la Chambre des représentants. 2 mois après la publication d'un rapport décrivant dans le détail les sévices sexuels commis par le clergé catholique de Pennsylvanie sur 1 millier d'enfants, plusieurs diocèses de cet état du nord-est des États-Unis ont été assignés à comparaître. Victor Vasseur, bonjour.
Bonjour.
C'est la première fois qu'une enquête fédérale est ainsi ouverte aux États-Unis sur des accusations donc d'abus sexuels commis par des prêtres catholiques et leur dissimulation par les autorités épiscopales.
Ouais, c'est un rapport accablant, 884 pages et 2 années d'enquête. On y apprend que pendant 70 ans en Pennsylvanie, plus de 300 prêtres ont abusé au moins 1 millier d'enfants et peut-être même des centaines d'autres, des faits dissimulés par le clergé. Les enquêteurs se sont appuyés sur des archives conservées par les diocèses, comme des confessions manuscrites, des confessions transmises à l'époque au Vatican. Nous allons coopérer avec le ministère de la Justice américain dans cette affaire, rétorque l'archidiocèse de Philadelphie. C'est la première fois donc qu'une enquête fédérale est ouverte aux États-Unis, une énorme nouvelle pour les familles de victimes. Mais voilà, les faits de viol et d'abus sont prescrits. Sur les 300 prêtres accusés dans le rapport, seulement 2 peuvent être condamnés. L'un d'eux a d'ailleurs plaidé coupable cette semaine, rappelle le Washington Post. Une enquête fédérale, c'est plus de moyens. Jusqu'à présent, seulement des enquêtes au niveau des États étaient ouvertes, ce qui ne faisait que gratter la surface, reconnaît une victime. Cette fois, l'objectif, eh bien, c'est de chercher des responsables, savoir par exemple pour quelles raisons et à cause de qui des prêtres accusés d'abus sexuels ont pu être transférés d'église en église sans être inquiétés. Cette enquête en Pennsylvanie pourrait avoir un effet boule de neige. Les procureurs des États de New York et du New Jersey, où la population catholique est importante, ont lancé des appels à témoins. Ils réclament les archives des diocèses pour démarrer une grande enquête et espèrent le même dénouement qu'en Pennsylvanie.
Merci Victor Vasseur. On connaissait déjà son goût affiché et même prononcé pour la dictature. Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle au Brésil pourrait également s'avérer être un manipulateur. Jair Bolsonaro aurait, selon la presse locale, monté une organisation criminelle pour envoyer sur la messagerie WhatsApp de fausses informations contre le Parti des Travailleurs, et ce, quelques jours seulement avant le premier tour, le 7 octobre dernier. Une possible manipulation de l'électorat à travers les réseaux sociaux, qui n'est pas sans rappeler donc celles qui ont entaché déjà la présidentielle américaine ou le référendum britannique sur le Brexit. Le Brexit, justement, après un sommet européen qui n'a vu aucun progrès dans les négociations, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont quasiment acté la prolongation de la période de transition, actuellement prévue pour durer jusqu'à la fin 2020, période au cours de laquelle le Royaume-Uni continuera donc à appliquer toutes les règles de l'UE et en bénéficiant, contribuant à son budget, mais sans participer aux prises de décision. Une manière de se donner du temps pour trouver une solution au problème de la frontière entre l'Irlande d'un côté et la province britannique d'Irlande du Nord de l'autre, le seul vrai point d'achoppement en réalité entre Londres et Bruxelles, dont les points de vue sur ce dossier restent pour l'heure irréconciliables. Alors si les 27 semblent présenter un front commun sur cette question du Brexit, en revanche, d'autres sujets continuent d'agiter le risque de fracture au sein, cette fois-ci, de l'UE, au premier rang desquels le budget italien. Hier, Bruxelles a entamé un bras de fer avec la coalition populiste au pouvoir à Rome en réclamant officiellement des clarifications sur son dérapage budgétaire. Le commissaire européen à l'économie, Pierre Moscovici, est venu en personne remettre sa lettre de cadrage. Première étape vers un éventuel rejet de ce budget par la commission. L'Italie a jusqu'à lundi pour apporter des éclaircissements. Les précisions à Rome de Xavier Sartre.
La bourse en baisse à la mi-journée. Le spread, c'est-à-dire la différence entre les taux d'intérêt à 10 ans des bons allemands et des bons italiens, en hausse. Si ce n'est pas une alerte rouge, c'est en tout cas le signe que les marchés ne sont pas rassurés par le projet de budget italien, tout comme la Commission européenne. La lettre remise hier fait un constat sévère. Pour les deux commissaires, Pierre Moscovici et Valdis Dombrovski, c'est une déviation sans précédent dans l'histoire du pacte de stabilité, un non-respect particulièrement sérieux des obligations du pacte. L'Italie s'était engagée en juillet dernier à baisser son déficit de 0,6%. Il augmentera en fait de 0,8%. Ce qui est en cause, ce ne sont pas les mesures envisagées, c'est la manière dont elles vont être financées, car le projet s'appuie sur des prévisions de croissance jugées irréalistes et non validées par l'organisme indépendant chargé de les vérifier. L'écart avec le déficit structurel est ainsi trop important, 1,5%, inacceptable pour la Commission. Le président du Conseil italien et son ministre de l'économie vont tenter d'ici lundi midi de justifier le bien fondé d'une relance de l'économie par une politique budgétaire généreuse, à moins qu'ils ne modifient leur projet. Mais à entendre les deux hommes forts du gouvernement, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, pas question de changer quoi que ce soit, que cela plaise ou non.
Invité aujourd'hui de notre page Europe, Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Une première question de monsieur Maillard. L'Italie, on vient de l'entendre, inquiète Bruxelles. La commission estime que les dépenses prévues l'an prochain sont trop élevées par rapport à son déficit public et à sa dette. Or, la France a elle-même longtemps été dans ce cas, mais avec une certaine tolérance européenne. Pourquoi cela prend-il une telle tournure aujourd'hui avec l'Italie ?
Oui, c'est vrai que la France a longtemps dépassé les 3%, le fameux seuil des 3% de PIB. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres nominaux. Ce qui compte, c'est la trajectoire qu'on prend. Et il faut voir si en l'Italie, là, est en train de changer c'est un peu comme si vous changez de route. Et dans ce budget, en fait, triennal, c'est un budget pour 2019, 2020, 2021, elle prévoit, là, de creuser le déficit à 2,4 et ensuite de revenir un peu plus dans les clous. Mais c'est pas jugé fiable du tout. Parce que, d'ailleurs, comme l'a dit Xavier Sartre juste avant, c'est fondé sur des hypothèses de croissance qui paraissent tellement farfelues, en tout cas vraiment très très optimistes, que personne ne croit que ça puisse vraiment se marcher comme ça. Et d'ailleurs, effectivement, le bureau parlementaire du budget en Italie, qui est un office tout à fait indépendant, n'a pas jugé ça fiable du tout. Par ailleurs, en ce qui concerne la façon dont ce budget peut être financé, là aussi, ça repose sur des hypothèses très optimistes et un peu floues sur les privatisations ou sur ce qui peut aussi arriver sur le front fiscal. En fait, c'est avant tout un budget, certes, économiquement expansionniste, mais politiquement, avant tout, électoraliste.
Victoraliste, en effet. Le gouvernement italien, la coalition populiste défie en tout cas les règles budgétaires européennes, mais y a-t-il un risque réel pour la stabilité de la zone euro? Et puis comment réagissent les autres pays, les partenaires? Y a-t-il un risque pour eux également?
Tout à fait. Là, il y a un dialogue qui commence à s'installer entre la Commission européenne et l'Italie. La Commission a jusqu'au 29 octobre pour émettre un avis éventuellement défavorable à ce budget. Et après ça, ce sera donc l'Italie aura 3 semaines pour revoir sa copie éventuellement. Donc on est sur ce dialogue. Mais il n'y a pas qu'un dialogue entre Bruxelles et Rome. C'est aussi d'autres pays. Je pense par exemple à l'Autriche qui exerce actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne. Les Autrichiens actuellement peuvent se sentir très près de Matteo Salvini sur la question des migrants. Mais en tant que membre de la zone euro, se sentent pas du tout forcément solidaires de ce budget. Il faut voir aussi que ce budget en fait italien, il peut aussi diviser la coalition elle-même, puisqu'il a été très long à élaborer. C'est en fait un budget où chacun cherche à séduire son électorat. Donc il y a pour la Ligue, pour l'électorat du Nord, c'est les petits travailleurs indépendants à qui il faut promettre des baisses d'impôts ou même une amnistie fiscale. Et puis pour l'électorat du Sud, des 5 étoiles, ça vise plutôt les chômeurs et les travailleurs pauvres à travers ce projet de revenus de citoyens. Et donc du coup, chacun la cherche à séduire son électorat, mais ça a été très long à élaborer. Et on voit bien d'ailleurs sur la question de l'amnistie fiscale, le leader des 5 étoiles et le leader de Matteo Salvini de la Ligue, pas forcément bien s'entendre. Donc il faudra voir jusqu'où ils sont prêts à faire front commun sur cette cause. S'ils ont à la fois la pression de Bruxelles, des autres pays membres et même peut-être aussi
en interne,
et sans parler des marchés. Du coup, là, il faudra voir jusqu'où cette coalition tient bon sur ce budget qui est quand même effectivement politiquement très risqué.
Alors, depuis son élection et sa nomination donc comme ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini ne cesse de défier Bruxelles sur les migrants, sur le budget ou encore quand il rentre de Moscou, il s'insurge contre les sanctions prises à l'encontre des Russes. Bref, Matteo Salvini est en campagne pour les prochaines élections européennes. Il veut un peu être le chef de file des populistes européens. Vous trouvez ça inquiétant? Et comment estimez-vous aujourd'hui la réponse du camp des pro-européens? Est-ce que vous la trouvez à la hauteur?
Matteo Salvini, effectivement, est très fort dans sa capacité à attirer l'attention. Il y a à la fois beaucoup de théâtre dans sa mise en scène et dans la façon dont il s'y prend, mais c'est vrai que dans notre époque médiatique, ça compte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, effectivement, il dit même qu'il réfléchit à peut-être être président de la Commission européenne. Un Nigel Farage, on parlait avant du Brexit, n'aurait jamais dit ça, parce que lui, il se voyait pas du tout à la tête de la Commission, au contraire, il voulait quitter l'Union européenne. Et donc, ce qui est le plus intéressant, au-delà peut-être des rêves de Matteo Salvini, c'est de voir que la stratégie qu'il a, ce n'est pas du tout de sortir de la zone euro ou de sortir de l'Union européenne, c'est vraiment de prendre le contrôle de Bruxelles. Et on le voit même aussi avec Viktor Orban. Aujourd'hui, je dirais, il n'y a plus de pays qui veut sortir de l'Union européenne. Le Brexit ne fait pas rêver et on voit que c'est très compliqué. Donc personne n'emboîte le pas des Britanniques. Peut-être que Marine Le Pen songe au moins depuis la présidentielle à agiter l'idée de sortir de la zone euro, parce qu'en fait ça fait plutôt peur. En revanche, l'idée de vraiment prendre le pouvoir à Bruxelles et donc à l'occasion des élections européennes, c'est vraiment la carte effectivement qui joue. Mm-hmm. Mais en fait, ils sont assez divisés, parce que même si Matteo Salvini voulait être président de la Commission européenne, je ne suis pas sûr que les députés de 5 étoiles voteraient pour lui.
Oui, alors le climat est quand même un petit peu anxiogène aujourd'hui en Europe. Depuis le Brexit, on sent clairement que les vents sont contraires pour l'Union européenne. Y a-t-il, vous pensez, un risque de la voir imploser? On entend dire depuis longtemps qu'on veut la changer, qu'on veut la réformer, qu'il faut bouger. Mais vous pensez ça possible?
L'Union européenne, c'est comme un gros paquebot, c'est toujours très très lourd de changer le cap. Ce qui est sûr, c'est que ces élections européennes du 26 mai prochain vont être très différentes, parce que on voit bien l'érosion dans beaucoup de pays des partis traditionnels. Donc ça va pas juste être une partie entre un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Ça sera peut-être un peu aussi dramatique que notre présidentielle française il y a peu de temps. Est-ce que tous ces populistes, pour faire simple, sont compatibles entre eux et capables d'avoir une majorité au Parlement européen? Aujourd'hui, vraiment, on peut en douter. En tous les cas, entre des 5 étoiles, la Ligue, d'autres partis, ils sont dans des groupes très très différents.
Aujourd'hui, ils ne sont pas dans les mêmes groupes,
non,
en tous les cas.
Les Britanniques, par ailleurs, bien sûr, il n'y en aura plus. Et puis, par ailleurs, c'est encore difficile aujourd'hui de voir ce qui peut se passer le 26 mai, mais par exemple, regardez ce qui s'est passé dimanche dernier en Europe, en Bavière, au Luxembourg et en Belgique. On a vu par ailleurs une percée des Verts qui n'était pas forcément celle qu'on attendait. Donc, je dirais, il y a bien sûr un vrai vent mauvais, comme vous le décrivez, mais il y a aussi d'autres forces en jeu. Et c'est aujourd'hui, je dirais que c'est pas seulement le Parlement européen qui est menacé, mais c'est aussi peut-être au sein du Conseil, parce que vous savez qu'à la Commission, en Union européenne, il y a à la fois les députés européens, mais le Conseil des ministres. Et là, même si les élections européennes relativisent l'arrivée d'une majorité de partis des populistes, l'ambiance peut aussi changer au sein du Conseil des ministres. C'est déjà le cas, par exemple, avec un Matteo Salvini qui siège là avec les ministres de l'Intérieur, avec son homologue bavarois, son homologue belge. Donc, il faut être très vigilant.
Merci Sébastien Maillard, directeur donc de l'Institut Jacques Delors, d'être venu en direct avec nous. Et merci à Annabelle Grelier. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. De belles éclaircies à l'exception du Piémont et du relief pyrénéen où le ciel sera souvent gris, humide. Les températures 17 à 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.